Écho d'économie, Nazaire Coco.
Nazaire Coco qui sera bien sûr avec nous, Georges Kamoudjov au micro et toute l'équipe vous salue. Elle vous apporte des reportages et des entretiens pour comprendre les enjeux de l'économie congolaise, Jocelyne.
Nous vous amènerons partout où l'actualité économique nous invite, à Matadi en particulier où Guroje Nyampala sera en direct avec nous.
Et des dizaines de vaches qui meurent à Kabaré, l'agro-pastorale est inquiète, nous dira Jean Kassami dans la seconde partie d'Écho d'économie. Et l'invité de l'économie ce soir est Dieudonné Kanda du syndicat La Voix du Travailleur Congolais. Nous évoquerons avec lui l'enjeu réforme à l'Office National de Transport. Les nouvelles au pays, d'abord Moscou qui veut renforcer ses relations avec Kinshasa.
Oui, Georges, dans toutes les directions, a précisé le ministre russe des Affaires étrangères qui rencontrait aujourd'hui son homologue congolais pour Alexis Thambwe Mwamba. Cette visite donnera une impulsion aux relations économiques russo-congolaises.
Et comment finir avec le lourd décaissement des fonds de la Banque mondiale pour la RDC?
Les agences d'exécution des projets posent un sérieux problème de suivi et de coordination de l'aide de la Banque mondiale en RDC. C'est ce que déclarait aujourd'hui le ministre des Finances à l'ouverture de la revue des performances du portefeuille de la Banque mondiale en RDC. UCOP, BCECO et autres sont donc indexés. Athanase Matenda estime que l'argent de la Banque mondiale octroyé à la RDC doit être géré par les institutions congolaises nationales et provinciales.
Et des Italiens qui s'intéressent à l'AMIBA.
Une délégation du groupe italien Conita Esperel a eu des entretiens hier lundi avec le gouverneur de province Alphonse Ngoi Kasongi. Le président du groupe Conita Esperel, Roberto Missa, a déclaré que son groupe s'intéresse effectivement à la relance de la minière de Bakwanga. Les entretiens ont tourné également autour des investissements dans les secteurs de l'habitat et des infrastructures
et
routières.
Et des hommes d'affaires, Jocelyne, du Mozambique qui sont à Lubumbashi.
C'est pour établir les relations de coopération entre la province de Sofala et celle du Katanga. Et c'est dans le domaine de transport maritime, fluvial et ferroviaire. Un accord de partenariat est attendu à l'issue des différentes rencontres, notamment avec la SNCC, la FEC, section Katanga et les autorités provinciales. L'intérêt pour les opérateurs économiques peut s'expliquer par le fait que le port de Beira est plus proche de Lubumbashi et que le port de Durban en Afrique du Sud, utilisé jusque-là par les opérateurs économiques du Katanga.
La nouvelle économique au bout du fil.
Alors, on retrouve à Matadi Guy Roger. Guy Roger, la régie des voies maritimes vient d'obtenir un nouveau bateau depuis le week-end dernier.
Oui, il s'agit en fait d'une grue flottante. C'est un terme technique, Georges, pour sa fonction de baliseur. C'est un nouveau bateau baliseur et multiservice. Il a accès le jeudi dernier au port de Boma. Il a été payé avec des fonds propres selon les responsables de la RVM, Georges Kamoudjova.
Et à quoi va-t-il servir ce bateau?
Il sert en fait à poser des balises, ces signaux, sur la voie de navigation maritime. En plus de cette fonction, ce bateau est également un chalutier, c'est-à-dire un bateau de pêche.
Et il opère déjà?
Non, pas encore, ont indiqué les responsables de la RVM, pour la simple raison que les formalités de dédouanement n'ont pas encore pris fin. En plus, on attend que le ministre des tutelles vienne solennellement le mettre en service.
Mais on peut dire qu'il apportera beaucoup de nouvelles choses à la RVM?
En fait, Georges, avec un équipage de 6 personnes, il peut résoudre d'innombrables problèmes de balisage qui se posent sur le bief maritime congolais, surtout sur le fleuve Congo. Et comme c'est un bateau de pêche, l'État dispose donc d'un petit chalutier qui va l'aider à pêcher le poisson pour l'intérêt des populations.
Merci beaucoup, Guy Roger. Bonne soirée à Matadi.
Merci, Georges Kamoudjova.
Pour terminer ces nouvelles nationales, il faut signaler que un deuxième train à marchandises est arrivé à Mweneditu. Il transportait plusieurs wagons contenant des marchandises diverses des opérateurs économiques du Kasaï. Le directeur de la SNCC Mweneditu, Raymond Gandhi, a indiqué qu'une locomotive a quitté la gare ce matin pour tracter les wagons qui sont situés à 50 km au nord de Mweneditu. La FEC se félicite de cette reprise du côté Ilebo et Kananga, mais le trafic reste bloqué du côté Lubumbashi et Kamina suite à la grève des cheminots au Katanga. Vous suivez donc Écho d'économie sur Radio Okapi et tout de suite on passe à l'actualité économique internationale.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa Opondé.
Avec vous, Jocelyne, les quatre derniers pays de la liste noire des paradis fiscaux n'y figurent plus.
Oui, Georges, l'annonce a été faite par le secrétaire de l'Organisation pour le commerce et le développement en Europe. L'Uruguay, le Costa Rica, les Philippines et la Malaisie se sont engagés à procéder à des échanges d'informations fiscales. Ils ont donc rejoint les 38 autres pays inscrits sur la liste grise. Cette liste regroupe les pays qui ont pris l'engagement d'échanger des renseignements fiscaux, mais n'ont pas encore signé des accords bilatéraux avec au moins 12 des 30 États membres de l'OCDE.
Et le gouvernement irlandais, confronté à une grave récession, il doit dévoiler un collectif budgétaire de modération.
Ce collectif budgétaire devra être marqué par une augmentation de la fiscalité et des coupes claires dans les dépenses pour tenter de bloquer un déficit public en expansion. Le premier ministre Brian Cohen a déjà prévenu que ce budget ne sera que la première étape pour lutter contre les problèmes économiques du pays.
Alors, pour terminer, un regard sur les métaux précieux.
Le cuivre garde toujours sa cote. Son prix n'a pas chuté depuis une semaine. Il est à plus de 4 300 $ et l'étain reprend un peu de souffle. Il se comporte bien sur la semaine. Plus de 11 000 $ sur le marché londonien.
Voilà, il s'agissait de métaux de base. Éco d'économie continue tout de suite dans sa seconde partie.
Éco reportage.
L'éco-reportage ce soir nous amène à l'est de la RDC où plusieurs dizaines de vaches meurent de dermatose. C'est principalement à Kabare. Le bovin constitue l'une des principales ressources économiques de la population de cette partie du Sud Kivu. Cette situation vient accentuer la misère de la population, déjà appauvrie par les pillages perpétrés par les antagonistes de tous bords. Jean Kassami nous en donne les détails dans ce reportage réalisé auprès des acteurs agro-pastoraux du territoire de Kabare.
Cette maladie qui creuse les fossés de la misère de la population paysanne s'attaque souvent au gros bétail. La maladie s'est déclarée avec acuité en novembre dernier, comme le témoigne l'inspecteur agricole du territoire de Kabare, Dr Ndio.
Personnellement, j'avais constaté des cas sur terrain. En fait, c'est une dermatose, une maladie qui attaque le derme, la peau. Il y a d'autres signes que moi, j'ai dit que ça pourrait être la dermatose nodulaire. Mais il faudrait pour confirmer ça des examens plus appropriés. Il y a des lettres que j'ai écrites à ce propos et nous attendons toujours la suite. Et j'ai donné même des propositions. Malheureusement que cette maladie, elle a même dépassé les frontières du Kabare et serait même à Walungu, à Idui. Et là, ça devient plus dramatique.
Les conséquences économiques de cette épidémie bovine sont nombreuses sur la population qui vit en grande partie du produit de l'élevage.
Les bovins dans Kabare, on peut le compter maintenant au bout des doigts. La richesse du bâche, c'est le bovin. Mais si ces bêtes parvenaient à être décimées, ça serait très grave.
Cette inquiétude est partagée par un enseignant dans une institution supérieure de la place à vocation agro-pastorale. Mitu Gantwali explique.
Quand la maladie, qui est de nature très contagieuse, passe d'une bête à l'autre, il arrive un moment où dans le cheptel, il n'y aura plus de lait, les jeunes animaux ne croissent plus. Et cet aspect-là n'est pas négligeable, mais avec cette crise mondiale. De la même manière où on devait dire « halt, mosaïque de manioc », de la même manière il fallait dire « halt, dermatose ».
Que faire pour redresser l'économie de la population paysanne menacée par la dermatose bovine? Certains acteurs locaux préconisent l'intervention des agences humanitaires qui œuvrent dans le secteur agro-pastoral. C'est du moins l'avis de l'inspecteur agricole de Kabare.
Bien sûr, ils ont leur programme. Je ne connais pas leurs obligations, mais je me dis, ils sont plus ou moins obligés de nous donner main forte, ne fût-ce que pour nous chercher le vaccin ou encore moins les produits pour ces traitements symptomatiques. Nous attendons, mais nous risquons d'attendre très longtemps, ce qui est dommage.
D'autres, par contre, espèrent que la solution durable ne pourra provenir que du gouvernement. L'inspecteur provincial de l'agriculture se limite à recommander aux éleveurs de mettre les bêtes malades en quarantaine pour éviter la propagation de la maladie. Bukavu, Jean Kassami, Okapi Économie.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir nous retient à Kinshasa. Dieudonné Kanda, secrétaire général du syndicat La Voix du Travailleur Congolais. Vous êtes notre invité. Votre syndicat se positionne 5e à Kinshasa et 13e en RDC après les compilations des résultats sur les élections syndicales à l'ONATRA, où vous travaillez d'ailleurs. C'est votre première participation et vous aviez été suspendu 2 ans pour avoir exigé des éclaircissements sur la réforme de l'ONATRA. Et ça, c'est un enjeu très important encore aujourd'hui.
Nous sommes pour la réforme parce qu'au fait, la réforme prit de manière très élémentaire, c'est quoi? Un homme qui est malade doit aller vers le médecin et qu'on lui prescrive après diagnostic des produits pour qu'il récupère sa santé et qu'il soit en forme. Donc oui à la réforme, mais nous insistons qu'elle puisse sécuriser et protéger les agents, les emplois. La sortie en pension honorable et même l'incitation au départ volontaire, mais pourvu qu'il y ait un financement. Voilà, donc nous ne sommes pas dans une situation où on se lève, on dit non, réforme, non, on n'en veut pas. Non, on veut de la réforme. Et donc, la réforme doit s'opérer dans la transparence. Les travailleurs doivent être informés des tenants et des aboutissants. Et l'équité, c'est-à-dire qu'aucune des parties ne doit se retrouver désabusée.
Mais le grand problème, c'est peut-être celui-ci.
J'en arrivais.
Les travailleurs, il y en a beaucoup pour peu de boulot et pour peu de production. Comment alors privilégier les droits des agents et défendre en même temps l'intérêt d'une entreprise qui doit être vraiment compétitive?
Tout à fait. Vous avez raison. C'est mathématique. OK? Niveau d'activité, niveau du personnel. Vous relevez le niveau d'activité, mais les équilibres sont rétablis. Vous comprenez? Prenons le moment où c'était le pic. On constatera qu'il y avait un niveau d'activité plus élevé et un personnel également répondant à ces niveaux d'activité. Ben, il s'est fait fort malheureusement que la production minière du Katanga, parce que c'était le plus grand client de l'office.
Donc ça passait de la Gécamines vers la SNCC, SNCC vers l'ONATRA.
L'ONATRA et jusqu'au port de Matadi, porte d'entrée et de sortie de notre économie. Et alors, avec cette production qui a baissé, automatiquement, on s'est retrouvé avec un personnel qui est resté très élevé. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'est perdu. L'État doit à l'argent à l'ONATRA certifier, si nous abusons, quelque chose comme 350 à 450 millions de dollars. Eh ben, dans ce montant, s'il y a un acompte qui est versé, nous l'avons situé à 100 millions de dollars. On paye les locomotives, on donne des intrants au niveau de port de Kinshasa pour payer les engins, port de Matadi et port de Boma, ainsi que des intrants au niveau du chantier naval, les activités vont être relancées et de manière progressive, l'entreprise va se stabiliser. Parce qu'au fait, ce qui se passe sur le plan mondial, c'est que finalement, l'État est en train d'injecter de l'argent pour relancer les entreprises faillitaires, aussi bien publiques que privées.
Et ça, c'est le protectionnisme. Il faudrait que les entreprises vivent d'elles-mêmes.
Non, c'est le réalisme politique. C'est-à-dire, on est devant une situation de faillite, il faut de l'argent pour élever. Ce n'est pas du protectionnisme, d'un certain point de vue, mais il s'agit du réalisme politique. Il faut de l'argent pour relancer et on injecte de l'argent. Et donc, ici, dans ce pays, je ne vois pas comment nous, on doit faire le contraire. Il faut des capitaux frais pour relancer les activités. Ça s'est fait aux États-Unis d'Amérique, ça s'est fait en Chine, ça s'est fait en Belgique, ça s'est fait un peu partout, dans les conditions actuelles.
Si l'État n'a pas des capitaux comme ça, il faudrait qu'il fasse appel aux investisseurs, c'est-à-dire qu'il faut vendre quelque part de l'entreprise à des privés.
Oui, ça relève des négociations, tout en restant très éveillé sur les intérêts de la République. Sinon, on vend toute la République parce que c'est faillitaire.
On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à Radio Kapi.
Le plaisir a été pour nous et merci beaucoup. Nous vous remercions aussi.
Dieudonné Kanda, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat La Voix du Travailleur Congolais. Et c'est avec vous donc que nous terminons. Écho d'économie, réalisation Berry Luchaka, Daniel Tambinzoni, Jocelyne Moussaou et Nazar Koko nous ont aidés à le préparer. À la technique, Jean-Noël Mokondo, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même chaîne.
h 30 à Kinshasa, tout de suite, notre synthèse info et juste après ce sera le journal Laon Kikongo avec Folquin Koso.